Bonjour, comment ça va? Bien, je pense, puisque vous êtes là, bien installés, calmes et sereins, donc en toute quiétude. Quiétude, mot peu employé, d'ailleurs absent du moteur de recherche de mon application sur mon smartphone de la version de seconde 21. Par contre, il suffit d'y mettre le préfixe 1 pour que quiétude devienne inquiétude. Et là, le mot devient beaucoup plus familier, n'est-ce pas? Et les sujets d'inquiétude ne manquent pas, vous le savez, et vous les connaissez. Vous arrive-t-il d'être inquiet? Si vous écoutez l'apôtre Paul, vous ne l'êtes jamais. Ne dit-il pas « Ne vous inquiétez de rien » Philippiens chapitre 4, verset 6. Comment prenez-vous cet impératif? Il ne dit pas « Cessez de vous inquiéter ». Là, je comprendrai mieux. Y aurait-il une nouvelle traduction? Top Bible. Sur 10 versions, seule parole vivante traduite par N'entretenez aucun souci. Toutes les autres traduisent par ne vous inquiétez de rien. Alors là, tu te dis, c'est la parole de Dieu. Mais comment ne pas s'inquiéter? Mais quand même, je ne peux pas faire autrement. C'est naturel. Et puis, quand tout va bien, ok. Mais quand les circonstances sont défavorables, voire dramatiques, comment veux-tu que je ne sois pas inquiet? Va dire ça aux parents qui attendent leur fille, qui tardent à rentrer le soir, ou face à la menace de toute situation difficile, voire dramatique. Pensez aux agriculteurs aujourd'hui qui, à cause de la sécheresse, vont perdre toute leur récolte. Et puis, je m'inquiète aussi pour les autres. Et ça, c'est bien, non? Alors, comment comprendre cette parole? L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la présomption d'innocence qui s'applique à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique. Moi, je pense que nous concernant, vous et moi, je présume plutôt la présomption de culpabilité. Qui ne s'est jamais inquiété? Et qui encore aujourd'hui ne s'inquiète jamais? Qu'est-ce que l'inquiétude? Quelques définitions. L'inquiétude est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composantes somatiques, émotionnelles, cognitifs et comportementaux. Une autre définition plus simple, c'est l'absence de quiétude, de repos, de tranquillité. C'est un état d'insécurité, d'angoisse et d'anxiété. C'est un état pénible, trouble, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on appréhende par l'incertitude, l'irrésolution où l'on est. Celui qui est inquiet est donc celui qui ne peut pas trouver la paix, le repos, la tranquillité. Et puis, vous savez, il y a inquiétude et inquiétude. Remarquons que toutes les inquiétudes ne se valent pas. Elles vont simplement de l'intérêt qu'on porte à quelqu'un ou une façon de dire qu'il faut se préoccuper d'une situation à traiter, par exemple. Et cela, ça va jusqu'à l'angoisse qui vous détruit totalement. Elles dépendent des personnes et des situations, et nous le savons, nous ne sommes pas égaux. Et pour certains qui sont toujours inquiets, c'est un combat permanent. Elles se caractérisent par l'état d'incertitude et d'insécurité, par leurs conséquences et leur durée, et le degré de maîtrise qu'on qu'on en a ou pas. Certaines sont liées à son propre tempérament, certaines sont réelles et légitimes, et c'est le cas de la maladie, de la persécution, de la guerre, etc. Alors, question, est-il possible de s'affranchir des inquiétudes ? Je réponds non. Cela fait partie de notre nature. Et pour ma part, je n'ai pas trouvé l'interrupteur. Alors, que penser de cette parole de l'apôtre Paul ? Est-ce un ordre ? Un conseil ? À vous de juger. N'oublions pas que le Seigneur lui-même nous a demandé de ne pas nous inquiéter. Et revenons, si vous le voulez bien, à l'original. Que dit Jésus ? Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Il semble bien que ce soit un ordre. Vous avez noté que le verset 25 commence par « c'est pourquoi ». Alors, qu'est-ce qui précède ? Verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Il faut choisir. Il faut choisir. » En quelque sorte, il interdit à ses disciples de s'inquiéter s'ils font confiance à Dieu. C'est un impératif. Notons que s'inquiéter peut nous amener aussi sur le terrain glissant du doute, voire de l'incrédulité. Comme à ses disciples, il nous demande de faire le choix de la confiance en Dieu, et par conséquent de faire le choix de ne pas s'inquiéter. En tout cas, il nous le demande, et pourtant il connaît notre faiblesse et nos limitations. Il ne le demanderait pas si cela n'était pas possible. Alors, question aussi, devons-nous culpabiliser ? Je réponds non, puisque s'inquiéter nous est naturel. C'est un sentiment réflexe. Jésus nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Et lui-même a connu la frayeur et l'angoisse. Marc 14, verset 33. Dans le jardin de Gethsémané, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. L'apôtre Paul lui-même, lui qui nous dit de ne pas nous inquiéter, déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. » Et les disciples, quand ils se cachaient, n'étaient-ils pas inquiets ? Et David, il déclare dans au psaume 30, verset 8, « Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. » Ah, à qui s'adresse un tel conseil ? Ben, vous le savez, c'est toujours à quelqu'un qui est inquiet ou susceptible de l'être. Ne dit-on pas « ne t'inquiète pas ». Ce qui signifie en réalité « je sais que tu es inquiet, mais tu n'as pas de raison de l'être, même si... » Cette parole est en fait destinée à rassurer. C'est donc parce que Jésus connaît notre état d'inquiétude qu'il nous adresse cette parole. Alors, comment prendre en compte cette parole? Acceptation, doute ou rejet? Je suis d'accord avec toi, Jésus, quand tu dis que cela ne sert à rien de s'inquiéter. Matthieu 6, 27. D'autant plus qu'on sait les effets négatifs sur notre santé. Alors, quelle solution? D'abord, on peut faire une démarche personnelle. On peut travailler sur soi. L'inquiétude étant un état psychologique et physiologique caractérisé par des composants somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux, donc on peut faire une thérapie cognitive comportementale pour limiter toute pensée négative envers soi, pour développer la capacité d'avoir des pensées positives, de développer la capacité de remplacer des pensées négatives par des pensées positives. Enfin, fournir des informations pouvant aider à faire face à l'anxiété. C'est une solution. Et elle peut être utile. Mais sachant qu'il vaut mieux se confier en l'Éternel de tout son cœur que de s'appuyer sur son intelligence, ce que nous dit Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alors là, je vous propose une autre démarche, bien plus excellente, que je vous recommande, en qui j'ai toute confiance et que j'ai expérimenté. Celui qui est inquiet, étant celui qui ne peut trouver la paix, le repos, la tranquillité, écoutons donc celui qui nous propose de nous donner ou de nous rendre le repos. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu 11, versets 28 et 29. Rappelons-nous toujours que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin et que tout nous vient de lui. Paul a écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il était en prison. Il vivait ces choses-là. Voilà pourquoi il les recommande et voilà pourquoi nous voulons nous aussi les recevoir et les vivre à notre tour. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est en regardant vers le Seigneur, l'auteur de notre foi, que nous aurons la joie et la paix. Quelles que soient les circonstances, il nous restera toujours la foi, ce trésor bien plus précieux que les biens de la terre. Et regarder vers le Seigneur, c'est voir plus loin. Paul déclare dans Romains 8, verset 18, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va être révélée pour nous. Et que conclut Jésus face aux inquiétudes? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faisons donc connaître tous nos besoins et nos inquiétudes à notre Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais il veut qu'en toute chose, en toute chose, nous lui apportions tous nos problèmes, nos soucis, dans nos prières et nos supplications. Il n'y a rien que nous ne puissions lui dire en sachant qu'il nous écoute. L'inquiétude est un fardeau qui nous enlève la paix. Et la paix vient de Dieu en Jésus-Christ. Jésus n'est-il pas le prince de paix ? Isaïe 9:5. Rappelez-vous aussi la parole du semeur dans Matthieu 13:7. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Et voilà l'explication qu'en donne Jésus lui-même. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, et donc les inquiétudes, et par l'attrait trompeur des richesses. Mais vous savez que Dieu n'intervient pas forcément comme on le voudrait. En lisant ces textes, on a l'impression parfois qu'il n'y a qu'à, et la délivrance est quasi immédiate. Attention ! Paul précise que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications, d'où l'idée de durée. Éric Preud'homme, dans un feuillet de la méditation quotidienne, reprend deux situations qui se sont produites à Dothan. Ce lieu, d'ailleurs, n'est mentionné que deux fois. Première situation, que nous lisons dans 2 Rois 6, dans les versets 8 à 17. Nous trouvons le serviteur d'Élisée paniqué à l'idée d'affronter les Syriens. Élisée, le prophète, prie et l'accomplissement nous fait envie. L'Éternel intervient instantanément et ouvre les yeux du serviteur qui voit la montagne pleine de chars de feu, c'est-à-dire l'armée de l'Éternel. Deuxième situation, Genèse 37. Israël, c'est-à-dire Jacob, demande à Joseph, son fils, d'aller voir ses frères qui sont à Dothan. Vous connaissez la suite. Ses frères sont jaloux de lui et se débarrassent de lui en le jetant d'abord dans une citerne, puis le vendent aux Ismaélites qui l'emmènent en Égypte. Pensez-vous que Joseph ne s'est pas inquiété et qu'il n'a pas appelé Dieu à son secours? Et pourtant, Dieu n'a pas répondu. Il a laissé faire. Mais vous connaissez la suite et la fin de l'histoire. Relisez Genèse 37 et suivant. Et Éric Preud'homme pose la question de savoir dans quel Dothan nous pouvons nous retrouver. C'est le même Dieu qui intervient dans les deux histoires. Alors, comment pouvons-nous nous approprier cette parole ? Et nous, que disons-nous ? Je relis la recommandation de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, que je lis cette fois en entier. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Citons aussi quelques textes et références. Ésaïe 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Il y a de quoi s'inquiéter, non? Eh ben, Cuc dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Et 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Écoutons aussi cet extrait de la prière de Dietrich Bonhoeffer, pasteur luthérien et théologien, opposant au nazisme, exécuté le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg à l'âge de 39 ans. Prière que Pierre nous a donnée à méditer dans la feuille du mois de mars. Ô Dieu, aide-moi à prier et à élever mes pensées vers toi. Seul, je ne peux pas le faire. En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Je suis sans courage, mais tu ne m'abandonnes pas. Le secours est en toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. Conclusion. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que ça marche? Oui, j'en témoigne. Oui, je l'ai expérimenté, nous l'avons expérimenté avec Nadie, mon épouse, qui est partie à 4 ans de cela d'un cancer. Et pendant toute sa maladie, nous avons été en paix. Et puis récemment, une histoire plus rocambolesque qui m'est arrivée. Je vais faire les courses à Intermarché. Puis je reviens à la maison. Et quand je veux prendre les clés dans ma sacoche pour rentrer à la maison, pas de sacoche. J'ai dû l'oublier sur le caddie. Pas grave, Intermarché est à 800 mètres, je vais y retourner, puis je vais la retrouver. Donc je vais vite, je regarde les chariots et rien du tout. Je vais à l'accueil, j'attends mon tour, et puis à l'accueil, pas de sacoche. Ouh, là, l'inquiétude commence. Je repars. Et là, dans la voiture, là, ça monte. Et j'imagine tout un tas de situations. Puisque dans cette sacoche, il y a absolument tout. Il y a mon portefeuille avec mes cartes bancaires, avec ma carte d'identité, avec ma carte vitale, etc. Et puis, j'ai mon chéquier, et puis j'ai mon téléphone, et puis j'ai les clés de la maison. Et là, je me souviens de cette parole de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières, etc. Et là, je me pose. Et je me confie à Dieu. Et là, je sens la paix qui m'envahit. Terminé, je ne panique plus. Mais je me dis, il y a des choses à faire, tu vas les faire tranquillement, mais sans t'inquiéter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis rentré, je suis allé directement chez Christelle, qui a les doubles des clés, et en arrivant, je les ai croisés à une minute du près, je les loupais. Donc elle va chercher les clés, je reprends les clés, et puis au passage, je m'arrête à l'agent bancaire, Et donc j'arrive, c'est trop tard, là, tout est fermé, et l'hôtesse d'accueil me dit, je suis désolé, monsieur. Et là j'entends une voix qui me dit, non, non, c'est bon, c'est bon. Et le chef d'agence m'a reconnu, donc j'ai travaillé dans cette institution. Moi, je ne le connais pas. Alors, j'ai été formateur à une époque. Est-ce que je l'ai formé? Peut-être. Enfin, peu importe. En tout cas, il me connaît. Et donc, il m'accueille, il prend ma déposition, on fait les oppositions. Enfin, on fait tout ce qui est nécessaire. Soulagé. Je repars à la maison. Et là, un message sur mon répondeur de mon fixe. Votre sacoche est à votre disposition à l'accueil. Merci, Seigneur. Oui, des actions de grâce devraient toujours accompagner les démarches, car la louange est toujours due à Dieu, et la foi est vivifiée par la pensée de ce qu'il a déjà accompli. Alors, que retenir de cette exhortation de l'apôtre Paul? Je vous propose 5 points à retenir. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ses premières impressions sur un texte qui nous interpelle, mais le méditer pour le comprendre. Deuxièmement, que ne pas s'inquiéter n'est pas automatique. Cela demande de la discipline et un choix à faire. Ou bien rester sur ses inquiétudes, ou les déposer au pied de la croix de Jésus en nous déchargeant sur lui. Sinon, on sert 2 mètres à la fois et ça ne peut pas marcher. Notre comportement doit être en cohérence avec notre statut d'enfant de Dieu. Dieu nous promet sa paix, mais non l'immunité contre les aléas de la vie. Ce n'est pas parce que je mets ma confiance en Dieu que tous les soucis me seront épargnés. Ce qu'il nous promet, c'est sa paix malgré les difficultés de la vie. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Être inquiet, c'est ne pas lui faire confiance. Quatrièmement, l'inquiétude ne sert à rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Personne, évidemment. On peut ajouter que la confiance en Dieu et les inquiétudes sont opposées. La cohabitation ne fonctionne pas. Un des grands défis de la vie chrétienne, et de ne pas céder aux inquiétudes et de faire le choix de la totale confiance à notre Père céleste qui sait ce dont nous avons besoin et qui prend soin de nous. Quand j'étais gamin, à l'école du dimanche, j'avais appris ce petit chant. Quand le diable vient te dire, sois méchant, il faut lui dire. Non, 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 vilain Satan, je marche en avant. Je vous propose une nouvelle version qui pourrait être la suivante. Quand le diable vient te dire, sois inquiet, il faut lui dire, non, 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 vilain Satan, je marche en avant. Et marcher en avant, c'est marcher dans la confiance, parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et cinquièmement, que ça marche. Notre expérience et celle des personnages bibliques en attestent. Conclusion. Ne plaçons pas nos inquiétudes entre Dieu et nous. Faisons le choix de laisser Dieu entre nous et nos inquiétudes. Amen.